L'intermède philosophique, une chronique présentée par Camille Escamilla.
La bêtise. Les mots ne manquent pas pour évoquer ce phénomène. Il y a tout un bestiaire de la bêtise. Oie, bécasse, dinde, âne, mais aussi stupidité, sottise, imbécilité, idiotie. Et du côté des adjectifs, on peut ajouter crétin, abruti, con et bien d'autres encore. La référence aux bêtes constitue un sujet en soi. Sont-elles vraiment dénuées de toute intelligence? Pourrait-on leur reprocher d'être bêtes, les mépriser en conséquence? Rien n'est moins sûr. En réalité, seul l'être humain peut déchoir dans la bêtise. C'est la nature de cette déchéance qui nous intéresse ici. En quoi consiste-t-elle? Que veut-on dire quand on parle de manque d'intelligence? Quelles sont les conséquences de la bêtise? Prête-t-elle seulement à rire? Et enfin, y a-t-il des remèdes à ce mal? Pour commencer cette analyse, remarquons que la bêtise suscite régulièrement le mépris jusqu'à devenir objet d'insultes. On diagnostique alors la bêtise de l'autre à l'aide de ce terme d'autant plus efficace qu'il est court, con. Car oui, le con, c'est d'abord l'autre. Celui qui n'y comprend rien, entendez, qui ne comprend rien à nos intérêts. Le con par excellence, c'est le policier qui nous verbalise, le fonctionnaire qui ne constituera pas le dossier sans la énième pièce manquante. Si notre jugement est alors plein de colère et d'indignation, il recèle aussi, disons-le, un certain plaisir, celui de ne pas être con soi-même. Juger la bêtise, c'est ipso facto s'en exclure. C'est ainsi que le spectacle de la bêtise peut être réjouissant, comme dans le film de Francis Weber, Le dîner de cons. En voici un extrait où l'on assiste à la préparation du fameux dîner, où chacun apporte son con, dans l'espoir qu'il sera le meilleur.
François Pignon, il était tellement ahuri, il ne pouvait plus dire un mot. On va se régaler.
Et Michaud, il vient avec qui?
Avec un type qui collectionne des boomerangs.
C'est bon, ça?
Ah, il est exceptionnel, il paraît.
On sera combien en tout?
10 en comptant Pignon.
Ça s'annonce plutôt bien, dis-moi.
L'autosatisfaction des organisateurs du dîner de cons est manifeste et problématique. Problématiques également ces grandes affirmations « Oh, rien n'est pire pour moi que la bêtise » ou encore « Je hais les cons » comme s'il allait de soi qu'on avait de quoi évaluer l'intelligence, comme si on était détenteur de celle-ci. Nous suspectons ces certitudes d'être elles-mêmes prisonnières du piège qu'elles dénoncent. C'est que la bêtise et la vanité se rejoignent dans l'inconscience d'elles-mêmes. Le con est le dernier à savoir qu'il est con. La première marque d'intelligence serait alors de reconnaître sa propre bêtise et non celle d'autrui. Si la bêtise s'abolit dans la conscience qu'on en a, réciproquement, l'assurance d'y échapper est elle-même fort suspecte. Toutefois, l'inconscience peut-elle suffire à définir la bêtise? Il y a de multiples façons d'être inconscient, sans être bête pour autant. Un petit coup de pouce de Michel Audiard pour nous faire avancer. Les cons, ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Cette façon d'oser propre à la bêtise, c'est justement son inconscience propre. Il y a de la provocation dans la bêtise, mais une provocation naïve, innocente, n'était ses conséquences parfois désastreuses. Alors, en quoi la bêtise ose-t-elle? Quels exemples pouvons-nous donner de ces provocations? Sur le plan pratique d'abord, retrouvons Monsieur Pignon, le con du film de Weber.
Alors, je vous ai apporté les photos de mes plus belles pièces. La tour Eiffel.
Superbe.
8 mois d'effort.
Ça se voit. Et vous faites ça le soir, après votre travail?
Le soir et pendant les week-ends, dès que j'ai un moment de libre, quoi.
Et vous êtes marié?
Oui. Enfin, non. Tancarville.
Magnifique. Mais vous êtes marié, oui ou non?
C'est-à-dire que ma femme est partie.
Ah bon?
Avec un ami à moi.
Ça arrive, ces choses-là.
Un type que j'ai connu au ministère, pas méchant. Un soir, je l'ai amené à la maison et il lui a plu. Je n'ai pas très bien compris pourquoi d'ailleurs, parce qu'entre nous, c'est pas une lumière. Combien d'allumettes d'après vous pour un ouvrage pareil?
Comment ça, pas une lumière?
Le garçon avec qui il est parti. C'est pas pour dire, mais qu'est-ce qu'il est bête. Allez, dites un chiffre.
Mais plus bête que... Enfin, je veux dire, vous êtes intelligent, vous, alors, par rapport à vous.
Écoutez, moi, je n'aime pas être grossier, mais là, il faut employer le mot, c'est un con.
Mon Dieu.
Alors ?
Excusez-moi, mais je n'arrive pas à croire que votre femme soit partie avec un con.
Ah, mais moi non plus. Et c'est un vrai débile. Il ne parle que de planches à voile.
On peut donc collectionner les maquettes en allumettes. Les planches à voile, certains collectionnent des tire-bouchons, d'autres, comme Bouvard et Pécuchet, les protagonistes du roman de Flaubert, collectionnent les savoirs. Flaubert stigmatise à travers eux l'incapacité à s'approprier la méthode propre à chaque science, l'esprit qui anime chaque domaine de pensée. D'où l'intérêt de Bouvard et Pécuchet pour l'anecdotique, le sensationnel, comme les accouplements interespèces, les tables tournantes, les sacrifices druidiques, etc. D'où également leurs échecs systématiques et grotesques. Incendies, explosions, expériences médicales atroces, ruines financières, mais aussi suicides avortés. L'ennui ou le hasard les pousse à chaque fois vers un autre savoir. Ainsi, ils auront tout exploré, de l'agriculture à l'éducation, en passant par l'histoire naturelle, l'histoire tout court, et bien d'autres encore, tout exploré mais rien compris. Leur dévotion même se retournera en anticléricalisme. Sur le plan théorique, la bêtise consiste donc à confondre l'anecdotique avec l'essentiel, mais aussi la lettre et l'esprit, à prendre au sérieux ce qui ne l'est pas, à pontifier, et à rire quand il ne faut pas. Mais il y a aussi la bêtise intelligente qui produit des constructions théoriques, la bêtise idéologique. Lisons Hannah Arendt définissant l'idéologie dans sa belle analyse des systèmes totalitaires. Dans ce pouvoir de tout expliquer, la pensée idéologique s'affranchit de toute expérience dont elle ne peut rien apprendre de nouveau, même s'il s'agit de quelque chose qui vient de se produire. Dès lors, la pensée idéologique s'affranchit de la réalité que nous percevons de nos cinq sens et affirme l'existence d'une réalité plus vraie qui se dissimule derrière les choses sensibles, les gouverne de cette retraite. Eh bien, c'est l'idéologie progressiste, sa naïveté, son entêtement malgré les démentis du réel que Tim Burton dénonce avec beaucoup d'humour dans son film « Mars Attaque ». Tout commence avec la présence massive de soucoupes volantes autour de la Terre. Que nous veulent donc les Martiens ? Le savant de la Maison Blanche se veut rassurant.
D'après les informations limitées dont je dispose, j'ai fait trois extrapolations. 1. Nos amis martiens sont des êtres à base de carbone. 2. Ils ne respirent que de l'azote. Et 3. Cette énorme masse cervicale indique à coup sûr une aptitude télépathique.
Vous voulez dire qu'il est... Ils peuvent lire nos pensées ?
Potentiellement, oui.
Mais concernant leurs intentions, d'après vous, sont-ils amicaux ?
Eh bien, étant donné le niveau extrêmement élevé de leur développement scientifique, ils sont plus civilisés que nous, par conséquent pacifiques et éclairés. Et l'humanité est, quant à elle, une espèce agressive et dangereuse. Je crois que les Martiens ont plus de raisons d'avoir peur que nous, les hommes.
Ces Martiens vont se révéler belliqueux, animés d'une joie mauvaise à décimer les humains. Mais qu'à cela ne tienne, on niera leur hostilité criante en parlant de malentendus culturels, de problèmes de communication. Alors, que tirer de tous ces exemples qui ne sauraient être exhaustifs tant la bêtise est inventive ? Dans tous les cas de figure, il n'y a pas eu adaptation de la situation à son mode de pensée, à sa catégorie. L'individu n'a pas su effectuer la correspondance, faire entrer le cas particulier dans sa catégorie. Par exemple, la lettre ou l'esprit, l'essentiel ou l'inessentiel, le réel ou la théorie, le sérieux ou le comique. C'est donc de jugement qu'il s'agit. Cette inaptitude au jugement est comme un manque de souplesse de l'esprit qui, justement, n'arrive pas à s'adapter. Ce serait donc cela, manquer d'intelligence, manquer de jugement, et ce par rigidité, par adhésion massive. Citons Paul Valéry, il n'y a que les huîtres et les sots qui adhèrent. De là le rapport de la bêtise à la pesanteur, la lourdeur, l'inertie, la pétrification. Mais s'il y avait un mouvement propre à la bêtise, ce serait le mouvement circulaire. Je pense que quand on va mettre les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. fait dire Michel Audiard, à Gabin dans Le Pacha. Mais c'est surtout le recours au lieu commun, aux idées toutes faites et préjugées qui signent la rigidité de la bêtise, bêtise qui sombre alors dans le conformisme. C'est ainsi qu'au XIXe siècle, des écrivains comme Flaubert, déjà cité, Villiers de l'Isle-Adam, mais aussi Léon Blois, fustigent la bêtise, incarnée à leurs yeux par le bourgeois. L'exégèse des lieux communs, publiée en 1901 par Léon Blois, mérite un petit détour pour son originalité et sa férocité. C'est que, je cite, « le vrai bourgeois, c'est-à-dire l'homme qui ne fait aucun usage de sa faculté de penser et qui vit ou paraît vivre sans avoir été sollicité un seul jour par le besoin de comprendre quoi que ce soit, l'authentique et indiscutable bourgeois est nécessairement borné dans son langage à un très petit nombre de formules. » C'est l'interprétation de ces formules, de ces lieux communs que projetait Léon Blois dans cet ouvrage pour dévoiler leur sens véritable, à savoir rien moins qu'une vérité divine se cachant, se dissimulant derrière sa contradiction. Le bourgeois est un imbécile car il ne sait pas ce qu'il dit. Alors, s'il nous arrive par exemple de soupirer au sujet de la caducité des choses, d'affirmer que tout passe ou encore que rien n'est éternel, sachons que Léon Blois nous répond. Cependant, ô bourgeois, ta sottise a bien le caractère de l'éternité. J'ai beau faire, je n'imagine pas une durée moindre et je n'arrive pas à concevoir un instant de cette durée où tu cesserais d'être un imbécile. Cela seul doit forcer à croire à l'éternité divine. Penchons-nous maintenant sur les effets de la bêtise. D'abord, le comique. La définition que Bergson donne du comique dans son livre Le Rire rejoint totalement notre analyse de la bêtise. Pour ce philosophe, le rire est une sanction sociale à celui qui ne sait pas s'adapter, qui est trop raide, notamment sur le plan de l'esprit ou du caractère. C'est que la société recherche la coexistence de ses membres et exige donc d'eux qu'ils soient souples, qu'ils sachent arrondir les angles. Elle le réclame du bon sens. Je cite. « Le bon sens est l'effort d'un esprit qui s'adapte et se réadapte sans cesse, changeant d'idée quand il change d'objet. C'est une mobilité de l'intelligence qui se règle exactement sur la mobilité des choses. » Mais la bêtise peut aussi être terrifiante, entretenir des liens étroits avec le mal. En témoigne l'expression « plus bête que méchant » qui signifie que si la bêtise peut se substituer à la méchanceté, c'est parce qu'elle peut avoir des effets similaires. Nous retrouvons ici Hannah Arendt qui a mis en évidence un ressort essentiel du mal totalitaire, de ses crimes de masse, à savoir l'incapacité à se décentrer de son point de vue, par exemple, d'administrateur. Or, cette incapacité s'origine dans l'absence de souplesse de l'esprit, c'est-à-dire dans l'absence de pensée. Car, pour Arendt, à la suite de Socrate, la pensée se définit comme dialogue de l'âme avec elle-même. Autrement dit, par son aptitude à décoller de sa particularité, à ne pas coïncider avec soi, à s'interroger jusqu'à pouvoir se remettre en question. Celui qui ne pense pas ne peut donc pas se mettre à la place d'autrui, c'est-à-dire envisager les choses de son point de vue. Il est dans l'adhésion aux ordres, dans leur stricte application. Il n'y a donc pas de monstre, d'être fondamentalement méchant à l'origine du mal, mais des hommes ordinaires qui renoncent à penser. Cette analyse peut-elle vraiment s'appliquer à Eichmann, le grand organisateur de la solution finale ? Hannah Arendt le croyait, puisque c'est en observant celui-ci qu'elle l'avait élaboré. Elle fut très vivement critiquée pour cela. Pour terminer, le remède. Il s'est dessiné en creux dans notre propos. Pour se préserver de la bêtise, il faudrait maintenir le dialogue de l'âme avec elle-même, c'est-à-dire refuser de coïncider, d'adhérer, lutter contre l'assoupissement de l'esprit en questionnant les autres et soi-même. Mais cela, n'est-ce pas dans une certaine mesure faire l'idiot ? Quittons-nous sur ce beau paradoxe soulevé par Deleuze. Faire l'idiot a toujours été une fonction de la philosophie.
C'était l'intermède philosophique, Une chronique présentée par Camille Escamilla.